La semaine dernière, j'ai abordé cette drôle de question. Je suis comblé de chance dans la vie, comment arriver à le vivre? Si vous ne l'avez pas eu, cette prédication, vous pouvez la prendre à la sortie ou sur Internet. Mais cette fois-ci, ce dimanche, je vous propose de nous pencher sur l'autre versant de cette question. Avec celle-ci, je suis accablé de malheur, comment vivre? En effet, nous sommes toujours un peu entre les deux. Alors je vous propose donc de chercher à creuser cette question. C'est une préoccupation majeure pour l'humain, bien entendu. Une des réponses les plus connues et qui était très célèbre du temps de Jésus, c'est celle du philosophe Épicure au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans la lettre qu'il écrit à son ami Ménécée. Épicure présente sa méthode sous forme d'un quadruple remède contre le malheur pour soigner notre être de la douleur et trouver le bonheur. Un quadruple remède, c'est connu sous le nom de tétrapharmakos. Alors nous cherchons effectivement, nous, à élaborer notre propre trousse de pharmacie à la lumière nous-mêmes de la foi du Christ, bien entendu. Alors, pour répondre au défi d'Épicure, pour chercher quel pourrait être notre quadruple remède, j'ai choisi quatre textes dans l'Évangile. D'abord, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 9. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question : Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Jésus répondit, ni lui ni ses parents, mais cela permet que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Deuxième texte, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 11. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'humain, il passe par des lieux arides, cherche du repos, et comme il n'en trouve pas, il se dit « Je vais retourner dans ma maison, celle d'où je suis sorti. » Quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va chercher sept autres esprits encore plus mauvais que lui, et ils entrent là et ils s'installent, et la condition dernière de cet humain est pire que la première. Ensuite, dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 7, Paul nous dit « De la détresse quant à votre humanité, moi, Paul, je voudrais vous épargner. Ce que je vous dis, frères et sœurs, c'est que, l'instant ultime étant arrivé, désormais que ceux qui, étant en couple, soient comme non étant en couple. » Que les pleurants soient comme non pleurants, que les réjouissants comme non se réjouissants, que les achetants comme non possédants, que les utilisant le monde comme non abusants, car la figure de ce monde présent passe sur le côté, et je voudrais que vous soyez, vous, sans inquiétude. Ensuite, dans l'Évangile selon Matthieu, deux passages bien connus, des béatitudes, et puis ce passage que je répète presque chaque dimanche où Jésus nous propose son aide pour avancer dans le poids des souffrances. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et puis huit autres béatitudes. Et puis ensuite, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids des fardeaux, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de résurrection et de vie. Amen. Avant même d'évoquer, de décrire donc son quadruple remède, Épicure ouvre sa lettre à Ménécée avec une recommandation qui me semble essentielle. Voilà ce qu'il dit. Quand on est jeune, il ne faut pas remettre à plus tard de philosopher. Et quand on est vieux, il ne faut pas se lasser de philosopher. Car jamais il n'est trop tôt ou trop tard pour travailler à la santé de son âme. Celui qui dit qu'il n'a pas le temps pour philosopher est comme une personne qui dirait qu'elle n'a pas le temps d'être heureuse. Donc le premier point essentiel de la méthode que propose Épicure, c'est de travailler sur son intériorité, de s'interroger, de penser, de travailler sur sa qualité d'être. C'est le plus beau des cadeaux à faire à son enfant. C'est plus essentiel même que les études, que le sport, que les loisirs, que la musique, travailler à la santé de son intériorité, au développement de son âme, et s'exercer à cela toute sa vie, comme on s'alimente de pain, d'eau et d'oxygène. Car notre âme est absolument essentielle pour être, évidemment. Et elle est aussi essentielle pour faire face aux aléas de la vie. Et c'est pour ça qu'Épicure commence par cette exhortation, pour tous les âges. Épicure ensuite nous dit que nous avons besoin de prendre un quadruple remède pour notre âme, pour la guérir de ce qui peut nous rendre malheureux. Le tétrapharmakos d'Épicure, c'est de prendre conscience que premièrement, les dieux ne sont pas à craindre. Deuxièmement, que la mort n'est pas à craindre. Troisièmement, que l'on peut, en réalité, atteindre le bonheur. Et quatrièmement, que l'on peut supporter la douleur. Alors, ces quatre points sont discutables, mais ils sont intéressants. Ils sont un appel à philosopher par nous-mêmes afin de chercher notre propre médicament, notre propre pharmacopée. Alors c'est aussi à discuter avec nos proches, avec le respect pour leur propre fonctionnement, parce que tout le monde ne fonctionne pas pareil. Et puis à travailler aussi, au soin de nos âmes, finalement. Nos âmes qui sont si précieuses, qui sont si douées pour le bonheur, et qui sont si exposés en réalité au malheur qu'il survient par surprise. Jésus nous dit que le malheur vient comme un voleur qui arrive dans la nuit, et il nous conseille, lui aussi, de nous préparer. Cherchons donc à élaborer notre trousse à pharmacie à la lumière de la foi de Jésus-Christ. Alors, pour répondre au défi d'Épicure, j'ai choisi quatre textes, et quatre textes seulement, et je commence par celui de Jean au chapitre 9. Ce récit évoque la situation d'un homme qui connaît effectivement le malheur d'être aveugle dès sa naissance. La première chose qui vient à l'esprit des disciples de Jésus, c'est de se demander quelles sont les causes de ce malheur. Jésus est d'accord avec Épicure, en tout cas ça ne peut pas venir de Dieu, il n'y a rien à craindre de Dieu. Même si nous étions son ennemi, Dieu n'est donc pas derrière ce malheur. Le mal pourrait effectivement venir des humains, parfois de notre faute, parfois de la méchanceté des autres, oui ça peut arriver. Cela nous le savons et Dieu peut vraiment nous aider à travailler sur ces faiblesses de l'humain. Ça ne peut pas être Dieu, et puis à part les humains, qu'est-ce qui pourrait être source de malheur dans notre vie? Eh bien, il y a cette autre source du mal, c'est le chaos, le hasard, qui est source de chance dans notre vie, comme de catastrophe. C'est injustement réparti. La vie a effectivement un côté de loterie, c'est vrai. Alors ce côté imprévisible de la vie humaine angoisse l'humain. Nous aimerions apprendre comment est-ce que ça marche finalement pour arriver à mieux maîtriser notre existence. Alors l'homme cherche parfois à s'inventer des rites, à s'inventer des superstitions diverses, à s'inventer des sortes de prévisions occultes ou irrationnelles. Tout cela nous détourne des véritables enjeux de notre existence, tant scientifiques que spirituels. C'est pourquoi l'enseignement de Jésus est excellent, que nous avons ici, dans ce récit. Et ce serait finalement mon premier remède contre les malheurs de la vie. Qu'importe le passé, toute douleur du présent est effectivement contraire à la volonté de Dieu. Et donc, cherchons avec Dieu ce que nous pouvons faire, nous, à notre niveau, pour poursuivre la genèse d'un monde plus juste et plus beau. Se détourner du passé et nous tourner vers, activement vers l'avenir. Alors ensuite, en Luc 11, nous voyons la parabole du démon qui revient avec ses amis. Contrairement à ce que dit Épicure, la mort et le malheur ne sont pas rien du tout. Dans le malheur, nous ressentons une peine, parfois une colère face à ce qui nous frappe effectivement injustement ou qui frappe ceux que nous aimons. Et la souffrance, la colère est parfois si abominable qu'elle nous atteint jusqu'au cœur même de notre être et nous tombons au fond du gouffre, comme Jonas. Cette souffrance est donc mauvaise et elle est terrible. Mais cette souffrance, cette colère, comprend aussi une énergie, quelque chose de puissant, quelque chose de déterminé, quelque chose qui se révolte contre la souffrance, contre l'injustice. Avec, effectivement, au lieu du bonheur que voulait Dieu pour chacun, le malheur. Jésus propose donc de convertir cette énergie en amour du bien et en action en faveur du bien avec Dieu, faisant équipe et ensemble et avec Dieu. Alors ce n'est pas ce que propose Épicure. Ces médicaments, il chercherait plutôt l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble, et l'apathie, l'absence de passion, le détachement. D'autres spiritualités rejoignent Épicure dans cette recherche de la paix intérieure en faisant le vide en soi-même. Jésus nous propose, à mon avis, une démarche diamétralement opposée. Quand il explique que même si nous arrivions à chasser nos propres démons intérieurs, nous pourrions profiter de quelques instants de paix, comme il le dit dans sa parabole, mais nos démons risquent de revenir plus tard avec tous leurs copains en plus. Jésus nous conseille ainsi de ne pas chercher la paix intérieure par le vide, mais par un supplément d'être. Plutôt que de chercher la paix par le détachement, la trouver par l'engagement, comme artisan de paix, comme assoiffé de justice, comme prophète criant dans le désert, au risque de se faire aussi persécuter. C'est le style de Jésus. Épicure nous suggérait à juste titre de ne pas craindre les dieux. Jésus est d'accord. Mais il va plus loin. Il témoigne du fait que Dieu est concrètement puissant pour opérer ces retournements de nos démons, la conversion même de nos démons. Et donc mon deuxième remède, ce serait d'ajouter Dieu à notre sagesse pour convertir nos démons intérieurs en énergie active, engagée pour le bien. Et de garder cette bonne idée des anciens démons, devenus sans doute gentils, de cultiver l'amitié. En somme, de chercher ces deux ouvertures, ces deux formes de lien avec Dieu et ces attachements avec les autres. Alors, troisième texte, c'est Matthieu. Dans l'évangile selon Matthieu, Jésus a de longs enseignements qui sont fort riches. Dans ces paraboles essentielles de Jésus, que sont les béatitudes, ces 8 promesses de bonheur, heureux qui, c'est un appel aussi à compter sur Dieu, sur Jésus, qu'il a un peu plus loin dans le chapitre 11. Donc nous retrouvons là, effectivement, ce remède qui consiste à faire place à Dieu dans notre vie, non pas tant pour arranger nos problèmes, nous aimerions bien, mais ça ne marche pas comme ça, que pour inspirer notre être et lui donner la force de vie qui est plus forte que tout, que toute tribulation, et même plus forte que la mort. Alors se sentir pauvre en esprit, c'est cela. C'est demander à Dieu plus de son Esprit Saint, plus de son souffle créateur, qu'il travaille en nous, à notre âme, à relever notre âme, et qu'il fasse de nous des êtres vivants, debout, créateurs, source de vie autour de nous. Il y a souvent méprise, en fait, sur ce que l'on entend comme bonheur. Ça vaut mieux de creuser la question pour le rechercher. Le bonheur, ce n'est pas une sorte d'extase dans ce texte de Jésus. En hébreu, heureux et cher, ça veut dire aussi le pas que nous faisons pour avancer. Ça signifie encore être en relation, car et cher, c'est aussi le pronom relatif si courant en hébreu. C'est donc une ambition modeste mais déterminée de chercher le bonheur avec l'aide de Dieu. C'est connaître le bonheur d'avancer un tant soit peu dans notre être, dans notre relation avec les autres, et de faire un peu de bien autour de nous, de faire avancer. De gagner donc du terrain millimètre par millimètre et d'y découvrir un vrai bonheur, le vrai bonheur. Oui, allez-vous me dire, mais pouvoir avancer ne serait-ce que d'un petit pas, c'est déjà le privilège de celui qui n'est pas au fond du fond du fond du gouffre. Or, parfois, une souffrance abominable nous vide tellement. Nos démons de colère et de douleur nous submergent et nous prennent à la gorge. Oui, mais jamais totalement, nous dit ici Jésus. En effet, être pauvre en esprit, être pauvre, c'est avoir trop peu pour vivre, c'est vrai, mais ce n'est pas être totalement démuni, c'est avoir pas assez, d'avoir un tout petit peu quand même, mais pas assez. Et l'humain n'est jamais donc complètement vide du Saint-Esprit. L'humain est en réalité comme une bouteille. Même avec les machines les plus puissantes, il est impossible d'y faire le vide absolu, vide de toute particule, et de toute énergie, ce qui revient en fait au même. Donc mon troisième remède serait de bien s'imprégner du fait que même le plus abattu des humains, que ce soit nous-mêmes ou un autre, aura toujours un reste de cette énergie vitale qu'est l'Esprit Saint, ce souffle par lequel Dieu crée le monde à partir même du chaos. Le savoir, c'est déjà le rechercher en soi et en quiconque nous voyons être abattu. Dès lors, tout est possible. À commencer par ce gémissement de prière inexprimable dont parle Paul, que pousse l'esprit finalement en nous et qui nous permet de demander à Dieu plus encore de son esprit. Et cela amorce donc une remontée. Et puis une voix qui nous dit « Tu es mon enfant, tu vivras, tu connaîtras encore le bonheur. » Même si aujourd'hui tu pleures ou tu es persécuté, c'est ça que nous disent ces béatitudes de Jésus. C'est pourquoi Paul nous encourage à ne pas nous assimiler au malheur qui nous arrive. Quand nous sommes malades, nous ne sommes pas un malade. Nous sommes une personne. Nous étions déjà cette personne quand nous étions en bonne santé, avant que nous soyons malades, avant la souffrance cruelle et injuste. Nous sommes tout autant cette personne quand nous sommes dans la joie que quand nous sommes dans la peine. Nous étions déjà, nous, cette personne, quand nous avions 5 ans, commençant à apprendre à lire. Nous étions encore cette personne dans les difficultés de l'adolescence, dans l'amour, dans les meilleurs moments, dans les deuils, dans la faiblesse. Tout cela n'est pas rien, bien entendu, mais notre être est d'un autre ordre que cela. Nous sommes aimés, nous sommes connus, nous sommes reconnus, nous sommes nécessaires aux yeux de Dieu, nous sommes sauvés. C'est ce que nous a appris le Christ. Et donc mon quatrième remède, ce serait d'exercer à sentir cela, cette autre temporalité. Et pour cela, prendre peut-être la peine et la joie de prier, afin de faire régulièrement un pas de côté dans la course de notre vie, nous désincarcérer un instant de ce qui nous arrive, pour sentir que notre personne existe, qu'elle est debout, que son existence est hors du temps qui passe, hors des événements qui nous arrivent, que notre existence est gardée. Notre aide est en Dieu. Amen.